Je ne vais pas tout de suite vous embêter par les mots grecs, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais je voudrais placer ce que je voudrais vous dire sous l'autorité de la parole du Seigneur, et je voudrais vous inviter à écouter deux versets, trois versets de l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19 et verset 20 et verset 21. Seigneur notre Dieu, c'est ta parole qui est la vérité. Nous te prions par ton esprit de nous rendre sensibles à la vérité de ta parole, à sa force dans notre vie, et de nous rendre obéissants, confiants en toi et désireux de te servir. Que ta parole produise en chacun de nous les effets que tu souhaites, nous t'en prions. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maisonnée de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors cette question de l'organisation, je voudrais remercier André pour ses mots de bienvenue et puis vous remercier tous aussi pour votre accueil et vous transmettre les salutations de votre église voisine de Melun dont je fais partie. Alors cette question de l'organisation de l'Église d'après le Nouveau Testament, c'est une question qui peut paraître peu spirituelle et relever davantage du domaine matériel de la gestion. Est-ce que l'essentiel n'est pas notre relation personnelle avec le Seigneur, notre relation avec le Christ par le Saint-Esprit ? Est-ce que l'essentiel n'est pas que nous croyons dans le Seigneur, notre foi personnelle, notre obéissance au Seigneur, l'amour fraternel que nous avons les uns pour les autres ? Bien sûr, vous serez d'accord. Si je n'ai pas l'amour, dit Paul, tout le reste ne vaut rien et ne peut rien faire de bon. Et d'ailleurs, nous avons déjà prié pour que Dieu nous donne l'amour. Voilà ce que nous devons dire avant toute chose et ce que nous devons encore répéter après toute chose. Cependant, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu ne se désintéresse pas de l'organisation. On le voit très bien dans l'Ancien Testament. Il a donné des instructions extrêmement précises sur la manière dont devaient être disposés les différents éléments du sanctuaire, du tabernacle, ses dimensions précises, la matière, la couleur des tissus qui devaient être employés pour le tabernacle, la dimension de chaque objet, la matière dont ces objets devaient être constitués, et également la répartition des familles de Lévites, en fonction des services qu'ils devaient rendre, les familles qui devaient offrir les sacrifices, les familles qui devaient transporter les objets du culte, les familles qui devaient s'occuper, prendre soin des objets du culte. Toute une organisation qui a d'ailleurs été un petit peu aménagée par David parce qu'il a mis de la musique dans le culte et donc il a utilisé certaines familles de Lévites pour des chantres et pour des instrumentistes. À l'époque, les métiers, ça se fait de père en fils. Hein. Donc, on est chantre parce que son père était chantre, etc. Bon. Donc, en voyant cette impressionnante attention à l'organisation, au détail près, pourrions-nous demander, Dieu n'aurait-il pas prévu quelque chose de semblable pour l'Église dans le Nouveau Testament ? Ben, notre première impression, je pense que c'est aussi la vôtre, c'est que ça n'est pas aussi évident. Nous n'avons pas de loi de l'Église comparable à la loi de Moïse, avec son organisation détaillée. Pas de statut ou de règlement intérieur type. Pas de cahier des charges de différents responsables qui auraient été très clairement identifiés. Mais nous pouvons quand même tenir pour acquis que Dieu, qui est le même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu ne se désintéresse pas de l'organisation. Et nous pouvons penser que nous allons trouver dans le Nouveau Testament bien des informations et bien des directives qui vont être utiles et même indispensables, même si c'est d'une manière un peu différente ou assez différente de celle que nous avons dans l'Ancien Testament. Nous pouvons d'abord percevoir une structure de base qui est évidente. C'est une structure qui a été mise en place par Jésus lui-même. C'est la structure des 12 apôtres. Cette structure, elle est fondamentale parce que c'est Jésus lui-même qui l'a établie. Il a choisi aussi lui-même les 12 personnes qui faisait partie, qui constituait cette structure. Et ce chiffre symbolique de 12 souligne l'intention fondatrice de notre Seigneur. 12 apôtres, comme les 12 tribus d'Israël. Et Jésus lui-même a souligné la correspondance en disant à ses apôtres, « vous siégerez sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Et c'est repris aussi dans l'Apocalypse, dans la description de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 fondements de la cité sainte sont les 12 apôtres. Ce sont ces 12 que Jésus a réunis dans la chambre haute pour leur donner ses dernières instructions et aussi pour prier pour eux et prier pour eux en leur présence, prier pour eux et prier pour tous ceux qui allaient croire en lui par leurs paroles. Croire en lui par leurs paroles, par la parole des apôtres. C'est dire toute l'importance que Jésus a attachée à cette parole des apôtres comme structure fondatrice de l'Église. Et c'est bien ce que Paul enseigne aux Éphésiens dans le passage que nous avons lu. Vous avez été édifiés sur la fondation des apôtres et prophètes, Jésus lui-même étant la pierre d'angle. Je crois qu'il faut bien ne pas comprendre ici les apôtres et les prophètes, comme on le voit dans certaines traductions, et même dans la traduction que j'ai là sous les yeux, mais comme s'il s'agissait de deux groupes de personnes différentes, les apôtres et les prophètes, mais bien plutôt, il faut comprendre les apôtres et prophètes. Il n'y a qu'un seul article en grec. Les apôtres et prophètes, les apôtres étant présentés comme les prophètes. Les apôtres sont les prophètes de la Nouvelle Alliance, comme il y avait des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et comme les prophètes de l'Ancienne Alliance ont rédigé une bonne partie de l'Ancien Testament, ce sont les apôtres prophètes de la Nouvelle Alliance qui ont rédigé le Nouveau Testament. Cette structure fondamentale de l'Église, mise en place par Jésus, la structure des 12 apôtres, et cette structure, nous l'avons, vous l'avez ici, elle est là. C'est le Nouveau Testament, la vie du Christ, l'enseignement de Christ et des apôtres, mis par écrit pour toutes les générations de croyants, jusqu'à l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus. Et c'est sur la base de ce fondement-là que l'Église est l'Église de Jésus-Christ, ou elle ne l'est pas. Cette structure de 12, elle a été un peu bousculée. Elle a été d'abord tragiquement bousculée par la trahison et le suicide de Judas, qui a réduit le nombre à 11. Ensuite, elle a été bousculée par l'initiative des apôtres qui ont pensé devoir rétablir le nombre de 12. Est-ce qu'ils avaient raison, est-ce qu'ils n'avaient pas raison? On peut en discuter. Et puis enfin, elle a été bousculée par le choix que Dieu a fait de Paul. Paul, le petit dernier, le surnuméraire, celui qui se présente comme une sorte d'avorton. Il n'a pas de trône, lui, il a une sorte de strapontin. Mais il se présente aussi, et tient beaucoup à son titre d'apôtre, comme les autres. Et il occupe une telle place dans le Nouveau Testament, puisque une bonne moitié du Nouveau Testament est de l'apôtre Paul. Donc une structure un peu bousculée quant à la forme, mais qui constitue pour les chrétiens de tous les temps le fondement solide de notre foi. Nous avons là l'essentiel. Mais cela ne dit encore rien de la structure d'une église locale. Et là-dessus, il faut reconnaître que Jésus n'a rien institué. Nous ne trouvons pas dans son enseignement, nous ne trouvons aucun des mots caractéristiques que l'on va trouver dans la suite du Nouveau Testament, les mots comme ancien, comme épiscope, comme diaconos, comme ces mots-là, on ne les trouve pas employés dans la bouche de Jésus pour désigner des responsables de l'Église. Jésus n'a rien institué à cet égard. Et un des exemples, un des très rares exemples où Jésus parle de l'Église, emploie ce mot d'Église, c'est en Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. C'est à propos du problème qui est posé par un frère qui ne veut pas tenir compte de la réprimande qu'on lui adresse. Alors, il faut d'abord lui adresser la réprimande en privé, ensuite avec un ou deux témoins, et puis ensuite, s'il n'écoute pas ces témoins, alors Jésus dit, s'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église. Mais comment est-ce qu'on le dit à l'Église? Est-ce qu'il faut le dire comme ça, un dimanche matin? Ou est-ce qu'il faut s'adresser à quelqu'un, à un responsable dans l'Église? L'organisation de l'Église, dont on voit des marques évidentes dans le Nouveau Testament, est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Alors, du vivant des apôtres, des 12 apôtres, la structure mise en place par Jésus a joué encore un rôle important. Elle a joué un rôle à Jérusalem et elle a joué aussi un rôle, une influence sur les communautés naissantes. Mais cette structure de 12 apôtres, évidemment, elle ne suffisait pas pour toute l'Église et pour toutes les Églises, et même à Jérusalem. On a vu très vite qu'il fallait rajouter. Au nombre de 12, on en a rajouté 7, parce qu'il y avait un problème pour la distribution de l'aide alimentaire. On ne peut évidemment pas gérer une communauté de... C'était 3000, mais ensuite 5000, et il y en avait 5000 lorsque le problème s'est posé. On ne peut pas gérer une communauté de 5000 personnes avec 12 responsables. La marque d'organisation la plus ancienne et la plus représentée dans les communautés, dans les textes, c'est la présence d'anciens dans les communautés, des gens qui sont appelés anciens. D'abord à Jérusalem, où ils figurent à côté des apôtres, c'est à eux, aux anciens, que Paul et Barnabas, qui avaient réuni des fonds pour aider les chrétiens de Jérusalem, ont remis leur aide. Ces anciens figurent à côté des apôtres dans la réunion importante qui a eu lieu pour décider ce que devaient faire les chrétiens d'origine païenne par rapport au rite de la loi de Moïse. Est-ce qu'ils devaient se faire circoncire ou pas? Est-ce qu'ils devaient observer les règles alimentaires ou pas. Donc il y a eu cette réunion importante, et là, dans cette réunion, les anciens sont toujours mentionnés à côté des apôtres. Les apôtres et les anciens. Les apôtres et les anciens. 6 fois de suite. Ils sont toujours mentionnés dans la convocation, dans la délibération et dans la décision. Lorsque des communautés se créent en dehors de Jérusalem, eh bien, la première chose que, ou une des choses importantes que l'on s'emploie à faire, c'est de nommer des anciens. Actes chapitre 14, verset 23. Et quand on poursuit dans le Nouveau Testament, aussi bien dans les Actes que dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, dans tous ces écrits, on atteste la présence d'anciens dans les communautés. À Éphèse, parce que Paul les réunit, au chapitre 20 du livre des Actes, ce sont les anciens qui ont imposé les mains à Timothée, 1 Timothée 4, verset 14, avec Paul, Paul aussi, de Timothée 1, verset 6. Ce sont eux que Jacques recommande d'appeler lorsque quelqu'un est malade, prier pour lui, chapitre 5, verset 14. Et Tite est envoyé par Paul en mission en Crète, et l'une de ses missions, c'est précisément d'y établir des anciens. Tite, chapitre 1, verset 5. Donc, cette structure avec des anciens, c'est une structure qui est mise en place partout, toujours et dès le début. Cette structure, elle a l'avantage d'être familière aux gens de l'époque. C'est une structure qui fonctionne couramment à tous les niveaux de la société, depuis le village, avec ses anciens qui siègent sur la place et qui sont témoins des contrats qui sont engagés entre des personnes et qui peuvent intervenir pour régler des conflits. Depuis les anciens du village jusqu'aux anciens qui représentent toute la communauté d'Israël devant l'administration romaine. C'est une structure qui correspond à la culture de l'époque. Ce sont les vieux qui savent, qui conseillent et qui décident. Alors, peut-être pas exactement tous les vieux, et peut-être pas tous vieux ou très vieux, mais c'est quand même l'âge qui est la référence, qui justifie le respect et l'autorité qui sont reconnus à ces personnes. Une autre caractéristique de cette structure des anciens, c'est qu'il s'agit d'une structure collégiale, c'est un conseil. C'est un groupe de personnes qui conseillent, qui délibèrent, qui décident. Ils sont toujours mentionnés au pluriel, les anciens, jamais l'ancien. Ou si, quand on parle d'un ancien, c'est parce qu'il s'agit d'une personne, mais qui fait partie du groupe. Alors, en plus de ce mot « ancien », qui est très employé, je pense qu'on peut estimer à une vingtaine de fois l'emploi de ce mot pour désigner justement ces responsables de l'Église. En plus de ce mot, on trouve un autre mot qui est moins fréquent, et c'est le mot « épiscopos ». Alors là, je suis obligé de faire intervenir du grec. Alors, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas non plus pour vous impressionner, ou pour vous donner l'impression que on ne pourrait dire les choses qu'en grec, parce qu'en français, non, c'est pas possible. Non, on peut tout dire en français. Et si les gens vous disent qu'on ne peut pas le dire en français, c'est que c'est des gens qui ne veulent pas s'expliquer. Parce qu'on peut toujours dire les choses en français. Et dans toutes les autres langues, d'ailleurs. C'est pas... Les chrétiens, ils ont diffusé l'Ancien Testament en grec. C'était une traduction. Donc on peut toujours dire les choses dans sa langue, et il faut toujours s'employer à les dire clairement. Mais pourquoi est-ce que je fais intervenir le grec? C'est parce que, au cours du temps, depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, des complications assez sérieuses sont intervenues dans l'emploi des mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner des responsables d'Église. Et là, on est bien obligé de distinguer d'abord le mot grec qui est utilisé, ensuite le sens de ce mot grec en français, et puis ce que le mot grec est devenu dans la tradition de l'Église, parce que c'est ce mot grec qui a été transmis et ensuite légèrement déformé, mais qui est passé en grec, en français, c'est un mot grec qui est passé en français, pour désigner, au cours de l'histoire de l'Église, des fonctions bien établies comme celles de prêtres et d'évêques. Et donc c'est ça qui m'oblige à parler du grec. Le mot grec presbyteros, qui signifie vieux, ancien, et c'est ce mot dont on a parlé jusqu'à présent lorsqu'on parle des anciens. Voilà. C'est le mot presbyteros. Il a été utilisé dans l'Église pour désigner des responsables dont la fonction a évolué au fil du temps et que l'on appelait presbyteros, 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 et c'est devenu prêtre. Ils sont les prêtres. Et puis le mot épiscopos, qui signifie, le sens n'est pas très très facile à préciser, qui signifie quelque chose comme gardien, surveillant, intendant. Ce mot presbyteros a été utilisé lui aussi par l'Église, et on l'a utilisé pour désigner des responsables différents des prêtres, et ce sont les évêques. Épiscopos, 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 évêque. Voilà. D'ailleurs, vous le retrouvez dans épiscopal, épiscopa, où on a conservé davantage le fond grec du mot. Mais ce mot évêque, c'est en fait une déformation du grec. Et donc, c'est une source de confusion, et c'est pour sortir de cette confusion qu'il faut distinguer les trois, le mot grec, la traduction, la transcription. Sinon, on mélange tout. Donc, le mot épiscopos, c'est pour ça que je parle d'épiscopos, ou épiscope, est aussi utilisé, mais il est beaucoup moins utilisé que le mot ancien, je l'ai vu, on peut estimer environ 5 fois. S'il y a une certaine hésitation, c'est parce que c'est savoir si le mot est utilisé pour désigner un responsable. Voilà, c'est pour ça. Alors, quand on observe de près la façon dont le mot est employé, on constate qu'il désigne certainement les mêmes personnes, les mêmes responsables que le mot ancien. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on ne trouve jamais ces deux mots, ancien et épiscope, on ne les trouve jamais ensemble, l'un à la suite de l'autre, dans une liste. Comme par exemple, quand on trouve les apôtres et les anciens. Ça, ce sont deux personnes, deux groupes de personnes différentes. Ou quand Paul, adressant sa lettre aux chrétiens de Philippe, dit « les saints qui sont à Philippe, les chrétiens qui sont à Philippe, avec des épiscopes et des diacres ». Ce qui est encore plus évident, c'est que par deux fois, les mots, par deux fois, Paul utilise le mot d'une manière qui montre que les anciens sont désignés comme épiscopes. Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, au chapitre 20 du livre des Actes, et il leur dit « Le Saint-Esprit vous a établi épiscope ». Et lorsque Paul, qui demande à Tite de nommer des anciens dans les églises en Crète, lorsqu'il lui demande de nommer des anciens, il leur donne quelles sont les caractéristiques pour être épiscope. Donc c'est la même chose. Donc les deux mots désignent les mêmes personnes, mais ils ne les désignent pas de la même façon. Le mot ancien désigne un statut qui est lié à l'âge, sagesse, respectabilité, Et le mot épiscope, lui, surveillant, intendant, désigne plutôt une fonction. Et c'est toujours Paul qui emploie ce mot d'épiscope pour désigner les anciens. Et en employant ce mot, Paul veut souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'être un vieux sage et respectable, mais qu'il faut vraiment exercer une fonction au service de la communauté. Il ne suffit pas d'être ancien, il faut aussi être épiscope. Alors, nous en venons maintenant à un troisième mot qui a donné en français « diacre ». Il s'est dit « diakonos » en grec, ce qui signifie « serviteur ». Alors, ce mot est utilisé plus souvent que « épiscope », mais moins souvent qu'ancien, et il semble assez clair qu'il peut désigner d'autres responsables que les anciens épiscopes. Ils sont nommés après les épiscopes, comme destinataires de la lettre aux Philippiens, avec l'Église, avec des épiscopes et des diaconos. Et dans les instructions à Timothée, pour nommer des responsables, Paul semble bien distinguer des qualifications pour être épiscope et des qualifications pour être diaconos. Alors, habituellement, on considère que la distinction entre épiscopos et diaconos correspondrait à une répartition des tâches entre des responsabilités qui seraient plus spirituelles pour les anciens, épiscopes, et des responsabilités qui seraient plus matérielles pour les diaconos, qu'on appelle ensuite des diacres. Peut-être, mais ça n'est pas aussi évident que cela. Et je vais vous donner les raisons de cette hésitation. La distinction entre des tâches spirituelles, plus spirituelles, et des tâches plus matérielles ou plus administratives, elle apparaît bien lorsqu'on nomme les sept personnes du livre des chapitre 6 du livre des Actes, des personnes que l'on appelle souvent des diacres, mais ils ne sont pas appelés diacres dans le Nouveau Testament. Jamais on ne dit que ce sont des diacres. On dit que ce sont les sept. Et d'ailleurs, quand on les voit individuellement, comme Étienne, comme Philippe, ce sont plutôt des évangélistes que des diacres, au sens où nous l'entendons, personnes chargées. Alors c'est vrai qu'ils ont été chargés d'une mission, là, mais... Et puis Philippe, on l'appelle l'évangéliste, au chapitre 21 du livre des Actes. Philippe l'évangéliste. Et on dit Philippe l'évangéliste, l'un des sept. Autre raison de mon hésitation... Le titre de diakonos est donné aussi à des collaborateurs de Paul. Des collaborateurs de Paul qui manifestement n'ont pas une tâche particulière dans une église locale et certainement pas une tâche matérielle dans une église locale. Timothée est appelé diakonos, Epaphras est appelé diakonos, Tychique est appelé diakonos. Alors, si vous voulez les références ? Si vous les voulez, je peux vous les donner. Éphésiens 6, verset 1 pour Timothée, Colossiens 1, verset 7 pour Epaphras et Colossiens 4, verset 7 pour Tychique. Donc, ce terme n'est pas aussi précis que ça. Alors, peut-être qu'il il désigne certaines personnes qui ont une activité locale, mais il désigne aussi des personnes qui ont une activité mobile et qui peut-être n'exercent pas exactement les mêmes fonctions. D'ailleurs, le mot « serviteur », c'est un mot qui peut s'appliquer, on peut dire « un serviteur de Dieu », ça peut être des tâches extrêmement différentes les unes des autres. En dehors, donc, de cette... Maintenant, j'avance un petit peu dans notre perception du tableau que nous donne le Nouveau Testament. En dehors de cette structure bien établie des anciens ou épiscopes, complétés par celle des diacres, plus difficile à préciser, Nous constatons, en lisant le Nouveau Testament, en écoutant le Nouveau Testament, que bien d'autres fonctions et services sont mentionnés, plus ou moins souvent, dans le Nouveau Testament. Voilà, je vais vous donner un certain nombre ici, des fonctions comme prophète, enseignant, évangéliste, pasteur. Et on constate aussi que bien d'autres personnes, des personnes, sont désignées par leur nom dans les récits des Actes et dans les Actes des Apôtres, et dans les Lettres des Apôtres, pardon. On voit bien que ces personnes participent très activement au service du Seigneur, mais on ne sait pas quel titre leur donner. Timothée, quel était son titre ? Alors, pour saisir cette diversité, je vous propose de la disposer, non pas dans un cadre, une forme d'organigramme où on arriverait à situer toutes ces fonctions de prophète, d'enseignant, dans un cadre bien défini, mais plutôt selon des axes. Et je vais vous proposer deux axes, l'axe don-institution et un axe vertical et un axe horizontal, l'axe local et général. Dit comme ça, ça fait très abstrait, mais vous allez voir, je pense que ça se comprend bien. Donc le premier axe, l'axe don-institution. À l'un des côtés des flèches de l'axe, Dieu accorde des dons à l'Église pour son édification et son développement. Dieu donne. Et à l'autre bout, la communauté institue, plus ou moins, des titres, donne des titres, des fonctions. L'Église nomme. Et sur cet axe, je vous propose de distinguer le statut, la fonction et puis don et service. Alors je commence par les statuts et fonctions déjà observés, celles d'ancien épiscope et puis de diaconos. Et sur le schéma, et précisément parce qu'il y a cet axe du côté où Dieu donne, je rajoute les enseignants prophètes qui ne sont pas vraiment nommés par l'Église, mais ils sont là, ils ont une fonction, ils exercent un don, un service, et puis également évangéliste, berger. Là, c'est beaucoup plus rare comme mention pour ces deux autres fonctions et dons et services. Et dans ces fonctions et services, l'initiative divine est davantage mise en évidence. On va dire davantage c'est Dieu qui les donne que c'est l'Église qui les nomme. On pourrait compléter d'ailleurs, si on voulait avoir un tableau encore plus général, en mentionnant encore d'autres dons qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament et qui ne correspondent pas vraiment à une fonction. Alors, il ne faut surtout pas lire ce tableau d'une manière cloisonnée et trop schématique, parce que tout dépend de Dieu. Lorsque l'Église nomme, ce doit être en se soumettant à Dieu. Et lorsque Dieu donne, eh bien, l'Église bénéficie toujours des dons et des services, sans nécessairement faire des statuts, mais c'est toujours l'Église qui est bénéficiaire de ce que Dieu donne. Donc ce tableau, il faut le lire comme la diversité, la générosité de Dieu qui rejoint en partie les initiatives de l'Église et qui transcende les institutions de l'Église, au moins à cette phase de son développement. Alors maintenant, un deuxième axe, l'axe local, transversal ou interlocal ou plus général. La fonction d'ancien épiscope, c'est une fonction locale. C'est dans chaque église, il faut qu'il y ait des anciens. Et puis, il y a aussi une fonction locale de diakonos, certainement. Mais il y a aussi un nombre important de personnes dont on connaît les noms, Timothée, Tite, Tychique, Apollos, bien d'autres. On connaît bien leurs noms. On connaît même parfois qu'ils ont des problèmes d'estomac, comme Timothée. On connaît en partie leur activité. On connaît d'ailleurs davantage l'activité de ces personnes que l'activité des anciens. Et puis cette activité est très importante. Paul écrit 3 lettres à ces personnes. Et il n'a écrit aucune lettre à un ancien. Les lettres, elles sont écrites aux églises. Les anciens sont mentionnés avec le nom d'épiscope dans l'épître aux Philippiens, mais ils sont mentionnés, d'abord, Paul écrit à l'église de Philippe, il dit « avec des épiscopes et des diaconos ». Donc ils sont là, mais ce n'est pas eux les destinataires. Et Paul ne trouve pas nécessaire de s'adresser d'abord à eux pour qu'ils transmettent la lettre à l'Église. Il s'adresse directement à l'Église. Donc ces personnes dont on connaît le nom déploient une activité très importante sans qu'on leur connaisse de titre. Alors, Paul, parfois, les appelle diakonos, serviteurs, on l'a vu, mais c'est un mot qui désigne aussi d'autres personnes, avec d'autres, probablement d'autres responsabilités dans une église locale. D'autres fois, il les présente comme ses associés, avec des termes, c'est très intéressant, cette série de termes qu'il emploie, où il emploie, ce sont des co, alors en grec c'est syn, mais ce sont des collaborateurs. Alors là, le mot existe en français, heureusement, collaborateur. Epaphras, Philippiens 2, verset 25, Évodie et Saint-Tiche, et d'autres personnes, Philippiens 4, verset 3. Ce sont des co-serviteurs, Syndoulos. Ce sont des co-soldats, des co-athlètes, des co-athlés. C'est le mot joug. Les bœufs qui sont attelés pour labourer ensemble. Alors, ce qui est caractéristique de ces personnes, surtout les principales, celles qu'on connaît le mieux, c'est que, à la différence des anciens, ce sont des personnes mobiles qui se déplacent pour des missions ponctuelles. Ce sont des personnes jeunes. Et ce sont des personnes qui ont été formées par Paul et que Paul s'emploie à former parce qu'il les emmène avec lui dans ses déplacements, il les forme. Et à la différence des anciens qui sont sédentaires, qui sont âgés et qui sont peu formés. Donc on a là, dans l'axe horizontal, une activité qui est très importante pour l'enseignement, la discipline, la cohésion des églises, et une activité dans laquelle l'apôtre Paul s'est considérablement investi. Voyageant lui-même, en envoyant des lettres, en se tenant informé, en formant et en déléguant ces fameux collaborateurs dont on a parlé. Parce que à ce niveau interlocal, donc entre les églises, il y a bien des personnes inquiétantes qui circulent et qui sévissent, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux frères. Alors pour l'axe vertical, comme pour l'axe vertical, Dieu donne, l'Église nomme, il ne faut pas voir ici les deux en opposition. Paul ne cherche pas du tout à remplacer la structure locale par ses collaborateurs. Les deux doivent au contraire se compléter. Alors, vu de notre époque, il pourrait sembler que des personnes jeunes et formées soient beaucoup plus séduisantes et efficaces que des vieux. Mais à l'époque de Paul, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Ce sont les vieux qui savent et qu'on écoute. Et Paul doit insister et recommander à ses lecteurs de bien accueillir Timothée. Et même à un moment, il leur dit « Ne lui faites pas peur ». Donc nous avons là toute une organisation pratique et efficace au service des communautés locales et qui, d'une certaine façon aussi, s'impose à elles. Alors j'en viens à ma conclusion. Vous avez remarqué que le Nouveau Testament ne nous donne pas un organigramme à reproduire, des statuts, règlements intérieurs que l'on pourrait adapter. Mais ce que le Nouveau Testament nous offre, c'est 1000 fois plus intéressant, instructif et stimulant pour nous. Nous voyons l'Église vivre, nous la voyons se développer, nous la voyons répondre à des difficultés, trouver des solutions, nous la voyons suivre, on la voit suivre le modèle le plus banal d'organisation sociale. Ben pour nous, c'est la structure associative, hein. Un modèle banal, courant, que tout le monde connaît et qu'on peut appliquer facilement. Mais aussi, nous voyons les responsables répondre à des difficultés ou des développements non prévus. Nous la voyons s'adapter, prendre des initiatives pour arriver à assumer l'unité doctrinale, l'unité spirituelle et également la solidarité financière. Je n'ai pas évoqué cette question, mais elle était très importante pour Paul. S'il s'est fait arrêter, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il voulait absolument apporter lui-même l'argent à Jérusalem. Alors cette vision, non pas statique, mais dynamique de la vie de l'Église, nous donne à comprendre les principes qui doivent diriger notre action. Et ces principes, il faudrait les développer. Je ne vais pas le faire maintenant. Je voudrais quand même juste en évoquer deux. Premièrement, l'importance de la communauté des croyants. Cette communauté est toujours informée, instruite, associée aux décisions prises. Les responsables ne sont pas des chefs qui commandent, même pas des leaders, mais plutôt des serviteurs des protecteurs qui enseignent, qui corrigent, qui aident la communauté à grandir, à comprendre et à discerner. Et puis, deuxième principe, la dépendance de Dieu. Dans l'axe vertical, Dieu donne et l'Église nomme, mais c'est le don de Dieu qui est toujours premier. Et Dieu, en fait, donne tout, même ce que l'Église institue. Et si ce que l'Église projette, organise, institue, n'est pas donné de Dieu, alors ça ne vaut rien. Et cela nous ramène au début. Le don suprême de Dieu, c'est l'amour. Que Dieu nous accorde à chacun et à votre communauté et à chacune de nos communautés, nous accorde et nous renouvelle à tous ce don par excellence de l'amour. Amen.